Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Troisième et dernière partie de la rencontre avec Tanguy Vielle, l'auteur de La fille qu'on appelle. Pourquoi avoir donné les réponses qui concernent l'affaire de Laura et du maire à la dernière page, en italique?
Les trois dernières lignes dans l'épilogue, enfin, ben là je crois que, qu'est-ce qui m'a fait choisir ça? Je pense que j'ai eu envie à un moment de replacer ça dans une espèce de sérieux documentaire, comme si, alors que je venais de construire une fiction... dont on pouvait se soupçonner qu'elle était inspirée par des choses, etc. J'ai eu envie de faire comme au cinéma, c'est-à-dire comme au cinéma, c'est-à-dire pour en rajouter dans l'espace de fiction, en disant, en gros, bah, regardez, c'est comme au cinéma, quand à la fin, il y a marqué « Tony a pris 15 ans de prison hein, ». Et en même temps, en faisant ça, quand le cinéma fait ça, il se donne un gage de véracité du genre « ceci était une histoire vraie ». Et ce qui est, en général, quand il y a ce genre de choses dans un film, c'est précisément parce que c'était tiré d'un fait divers ou d'une... Donc en fait, je voulais... c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme si, en le faisant, je le déplaçais dans l'espace de la fiction, en faisant référence au cinéma, et en même temps, je le ramenais aussi à la réalité documentaire du fait, c'est-à-dire... Et le troisième point, c'est que je trouvais que j'avais un peu expédié la question de la résolution de la plainte dans le roman. C'est-à-dire que... Je me rendais compte que j'arrivais à la fin, que je m'en fichais complètement de savoir si la plainte ou pas de Laura avait été traitée, parce que j'étais juste dans la question peut-être de la vengeance, du symbolique, du père qui casse la gueule au mec, qui était pour moi un peu la clé du livre. Donc aussi de la réconciliation du père et de la fille, enfin j'avais tout ça dans la tête. Et ce qui fait que comme j'étais dans des affaires comme ça un peu psychologiques, j'en oubliais que pour le lecteur, je pense que s'il terminait le livre et qu'il se disait bah, « et la plainte ?» Qu'est-ce qu'elle est devenue? Il manquait quelque chose.
Mais est-ce que c'est pas aussi un contrepoint total au précédent roman, article 353, qui lui a son happy end?
Et ouais, c'est vrai qu'on peut pas faire deux fois le coup du happy end dans ces histoires-là. ça marchait, parce que c'est vrai que le roman précédent était aussi un roman de justice, on pourrait dire, mais qui finissait bien. Et ça, je pense que la fable positive, enfin, elle pouvait finir bien parce que c'était une histoire moins tragique, parce que c'était une histoire d'argent. Enfin, il y avait une histoire de meurtre. Mais on sentait plus l'effet de fiction qui permettait de finir bien. Je trouve que quand on traite quelque chose comme ça, en fait, on est quand même tenu par son sujet. Or, là, il y avait la réverbération de la réalité, c'est-à-dire, il y avait l'expérience des 10 derniers... Je veux dire, Strauss-Kahn, il n'a toujours pas été en prison, quoi. C'est quand même incroyable. Alors, certes, il a payé 3 millions à la femme de ménage à New York, là, mais... Parce que, bon, ce qui est bien, c'est la justice américaine, mais il serait été en France, il serait été pareil. Darmanin, c'est deux non-lieux, quoi. Bon, c'est extraordinaire. Donc il y a quand même un truc qui fait que là, on est bien obligé à la fin de faire juste un miroir au réel en disant, ben voilà, oui, certes, on en parle, certes, il y a des types qui carrent un peu leurs fesses aujourd'hui parce que en effet, ils n'ont plus la même impunité qu'il y a 20 ans, mais dans certains cas, et c'est un minimum, ça peut plus ou moins ruiner leur carrière. Mais de là à ce qu'il soit réellement justiciable d'un certain nombre d'actes, c'est quand même pas... On est encore loin du compte. Donc ça permet pas trop le happy end, en fait.
Pourquoi donner ce caractère au maire et pas à un autre personnage?
Il y a un méchant hein, dans mon histoire. Donc, pas un autre personnage. C'est-à-dire, pourquoi j'ai choisi un maire? C'est vrai que ça pourrait être... il fallait un homme de pouvoir, ça c'est sûr. Puisque, d'abord parce que là aussi, si je m'en tiens au réalisme de la situation, c'est précisément parce que les gens ont le pouvoir qu'ils peuvent se permettre de faire des sortes de chantage sur des personnes plus faibles qu'elles. Après, à l'intérieur du monde du pouvoir, bah, y a le choix. Hein. J'aurais pu prendre, en effet, un homme d'affaires, un grand chef d'entreprise, un autre homme politique. Ça, je dirais, peu importe. Après, moi, j'aimais bien, là aussi, pour des raisons un peu de théâtralité, j'aimais bien le maire, parce que c'est la petite ville de province où ça revient un peu sur la question de la manière dont moi-même j'ai grandi avec un imaginaire un peu de province, avec la petite ville où tout le monde connaît tout le monde aussi. Donc le maire, il est forcément pote avec le directeur du casino, il est forcément pote avec tous les... Et puis tout ça fait des petites affaires et ça s'arrange bien, et tout ça pour le bien des citoyens, bien sûr. Et il y a une porosité aussi dans les mondes, dans la province, qu'il n'y a peut-être pas à Paris. Par exemple, je veux dire, si on est maire de Saint-Malo, il est vrai qu'on peut recevoir dans son bureau n'importe quel citoyen, même le plus pauvre ou le plus décalé, parce que c'est pas, il n'y a pas 50 intermédiaires. C'est pas des gens qui sont complètement dans leur tour d'ivoire et tout ça. Alors, je trouvais que c'était un bon format pour rendre aussi poreux les relations... Tout d'un coup, c'est absolument crédible qu'une jeune fille un peu paumée se retrouve, certes par le biais du père, mais ça pourrait ne pas. Il y a une histoire comme ça qui a commencé parce qu'une jeune femme était venue dans le bureau d'une mairie demander justement à changer de logement parce que le logement était insalubre. Et puis, elle était là au comptoir de la mairie et le maire passait à ce moment-là. Et la personne qui était à l'accueil a dit, le maire est là, si vous voulez lui parler. Ça s'est fait comme ça. Comme il l'a trouvée jolie, ça a continué. Enfin, c'est devenu à peu près l'histoire du livre.
Parce que tous les personnages qu'on évoquait, ils sont dans la dénégation totale de leur culpabilité.
Ouais, ça c'est tout. Mais c'est ça qui est très impressionnant. Je me suis toujours dit, quand je vois les mecs à chaque fois, je me dis, il n'y en a pas un qui un jour va s'écrouler, va dire, j'ai déconné complètement, j'ai été un salopard. Il n'y en a jamais, jamais, jamais. Moi, je veux bien qu'il y ait des systèmes de défense psychologique, mais quand même, il pourrait y en avoir de temps en temps qui pourraient craquer, quoi. Jamais.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'on est dans une société où la prédation, c'est une valeur, en fait, ce qui n'est pas dite clairement, mais où, en fait, être un prédateur, au sens, le chasseur, c'est être puissant, ça va avec la puissance, et c'est complètement intégré dans la tête de tout le monde, bien y sûr. Compris dans bien la sûr. Tête des chassés, quoi, des victimes.
Oui, bien sûr. Ah, c'est ce que j'essayais, je pense, de mettre en scène aussi dans le personnage de Laura, parce que c'est un personnage... Là, je viens de voir l'adaptation qui en a été faite pour Arte, donc au cinéma. Enfin, ça passera pas au cinéma, ça sera à la télé, c'est un téléfilm, mais ça passera dans quelques mois. Bon... J'étais un peu déçu parce que le personnage de Laura, c'est vraiment la victime, quoi. Elle pleure tout le temps. Moi, je trouvais ça intéressant qu'elle ne soit pas si victime que ça, au sens où, en effet, elle a incorporé une partie de sa trajectoire et que ça n'en fait pas pour moi une victime, mais c'est simplement c'est une manière d'être victime qui peut passer par des actes où, en fait, on peut soi-même se jeter dans la gueule du loup. Et pourquoi pas même, avec toutes les ambivalences qui conviennent, y trouver son compte. Enfin, y trouver... Moi, je ne m'étale pas sur la question sexuelle, par exemple, mais rien ne dit qu'elle ne prenne pas de plaisir à un moment à coucher avec ce type. Je veux dire, ce n'est pas interdit. C'est pas pour ça, ça la fait pas moins victime. C'est ça, le truc. Parce que ça veut dire, et pourquoi pas, qu'en effet, elle peut avoir incorporé des choses. Y compris aussi le schéma de la puissance, c'est-à-dire son propre arrivisme à elle, etc. Donc, il y a plein de choses qui... Alors, il ne s'agit pas de les mettre sur le même plan. C'est pour ça qu'il faut garder l'idée qu'il faut qu'il y ait un méchant. Parce qu'il ne faut pas non plus tout confondre. Mais il y a des choses qui permettraient par endroit. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, qui fait la limite des discours juridiques sur la question aussi. À quel endroit chacun est responsable. Parce qu'on ne peut pas attaquer... C'est difficile de rentrer dans la tête des gens pour dire... ah oui, vous êtes victime de ça parce que... En fait, vous aviez incorporé un schéma de domination. Donc...
Non, le droit n'en est pas là.
Le droit n'en est pas là et le droit ne peut pas en être là et vaut peut-être mieux pas qu'il en soit là non plus.
Non. Oui, mais en fait, la fin du. La fin du roman, elle me semble vraiment aussi raconter ça, c'est que En fait, à chaque fois, elles sont jugées consentantes, quoi.
C'est ça.
Et d'une certaine manière, c'est vrai. C'est ce qu'on s'est dit avec les élèves. C'est que, ben oui, elles ne sont pas complètement victimes parce que justement, elles ont. Elle essaye de réussir comme ça aussi. En vendant son corps.
C'est ça. Mais ça, voilà, encore une fois, ça ne la rend pas moins victime, mais aux yeux de la loi, oui, bien sûr. Ouais. D'où l'intérêt de la littérature.
C'est ça. De pouvoir dire que c'est plus compliqué
oui,
que
c'est ça.
Ouais. C'est pas blanc ou noir.
Pourquoi mettre le père de Laura en rage ?
Ben, pour moi, c'est tout le livre allait vers cette scène-là. Alors, je pense que si je devais le dire bêtement, c'est ma propre... La propre colère initiale dont je parlais d'ailleurs en répondant à la première question tout à l'heure sur qu'est-ce qui m'avait motivé à faire ce livre, et c'est quand même d'abord ça, c'est quand même l'envie de foutre un point dans la gueule du type. Donc tout le roman allant vers ça, voilà, c'est ça la réponse en fait. Je ne voyais que... Je crois que c'est quand même un livre qui se réjouit de la vengeance, si on peut dire. Une vengeance qui ne passera pas par la loi, donc il reste ça, quoi. Après, dans le mécanisme psychologique de Max, je pense que c'est assez clair que il voit aussi, il y a tout le moment, il y a toute une... Il doit se rendre compte de ce que sa fille a fait, puis de la façon dont sa fille va aller retrouver le maire pour essayer de le sauver lui, puis la machination du maire et de autour des photos, en ressortant les photos de la gamine à 16 ans. Bref, toute la culpabilité de père aussi d'avoir laissé sa fille dériver, si on peut dire. Bon, pour moi, il y a une logique assez implacable à ce qu'il y a une sorte de bascule et de passage à l'acte. Mettre en rage au sens... c'est vrai que ce serait l'équivalent du passage à l'acte. Quoi. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la rancœur, de la chose qu'on accuse intérieurement, jusqu'au moment où ça bascule, quoi.
De base, moi, j'aimais bien ce personnage et je comprenais pourquoi il faisait ça, mais en même temps, je me disais pourquoi ça et pas la justice ? Pourquoi c'est lui qui prend alors qu'il voulait, de base, aider sa fille, en fait.
Ça, c'est vrai que ça fait partie de la noirceur du livre, sans doute, c'est-à-dire l'endroit où le... où il n'y a pas de confiance dans les institutions non plus. Or, précisément, le moment où... Puisqu'en fait, ça vient après que les photos de la jeune fille, enfin de Laura, sont ressorties dans la presse. Enfin, du moins, on dit « Ah, regardez, elle posait nue à 16 ans ». C'est-à-dire, en gros, à ce moment-là, on pourrait dire « Elle a porté plainte ». Et les types en face répondent « Regardez, elle ne vaut rien, cette fille, puisque, vous voyez, dès 16 ans, elle était déjà en train de poser à poil dans des magazines ». Donc, en gros, ils court-circuitent toute justice possible, ou du moins, ils annoncent que la défense, pour ainsi dire, sera plus forte que la partie civile. Donc c'est ça aussi qui permet de considérer qu'à un moment, ce manque de confiance dans la possibilité de la justice finit par en passer par la violence, on pourrait dire par la vengeance privée, par la justice privée. Et c'est vrai que ça, c'est un truc un peu obsessionnel chez moi, parce que c'était le même cas dans le roman précédent. Je sais pas, là il y a un truc à découdre entre moi et moi, mais.
Se faire justice.
Mais j'ai un truc comme ça, ouais. Ouais.
Après, c'est littéraire, c'est le moyen de casser la gueule littérairement, c'est sans danger, là.
C'est ça. Exactement, il y a aussi une sorte de réparation par le fantasme accompli, quoi, bien sûr. Je sais pas si vous avez vu les films de Tarantino, certains films de Tarantino. Comme, par exemple, Inglourious Bastard. Ça vous dit rien ? Avec Brad Pitt. Bon, c'est carrément un film où... c'est toute une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment, ils mettent le feu à un cinéma dans lequel il y a Hitler qui regarde un film. C'est-à-dire qu'ils tuent Hitler dans le film. Ils arrêtent le nazisme. Voilà. C'est-à-dire qu'ils réécrivent l'histoire. Le fantasme de tout le monde, c'est-à-dire de brûler Hitler, voilà. Et lui il le fait, et le cinéma lui permet de faire ce truc-là, quoi. Et c'est d'une violence inouïe, comme toujours chez Tarantino, mais en même temps, c'est jouissif et réparateur, beaucoup plus que la justice ne le fut à certains égards. Encore une fois, c'est vrai que c'est ce que vous avez dit, c'est l'apanage, le privilège de la fiction, de pouvoir aussi détruire symboliquement et violemment des choses que, par des actes qu'on ne ferait pas dans la vraie vie, c'est sûr.
Madame Bois dit que certains élèves ont été en colère contre Laura.
Oui, oui, je comprends. Mais je pense que c'est important de l'être aussi, parce que c'est vrai que... Mais beaucoup de... Alors, c'est marrant que vous me disiez que ce soit des élèves, parce que j'ai cru remarquer que c'était beaucoup dans les lectrices, beaucoup de femmes, mais plus des femmes, disons, ce que sont en général les lectrices dans les librairies, c'est-à-dire des femmes qui ont plus de 50 ans, et qui sont souvent des femmes évidemment un peu éclairées, puisqu'elles lisent et tout ça, et souvent aussi de on va dire, milieu social, plutôt classe moyenne, voire classe sup, ou intellectuelle. Et cette catégorie de personnes, pour une bonne part, est énervée par le personnage de Laura, sur ce sentiment de dire « moi, je ne me serais pas fait avoir ». Et ce qui est sans doute vrai.
Pas sûr.
Mais pas sûr, mais ça, admettons que une certaine, on peut espérer qu'une certaine libération de l'esprit, etc., permette de mais je suis assez d'accord.
Ça serait encore plus fait avoir peut-être. Vu leur âge.
Ah oui, par rapport à ah oui.
Il faut penser à ces actrices
comment elle se serait fait,
âgées qui ont écrit La Tribune, La Liberté d'Importuner.
Alors, justement, non mais justement, j'y pense, mais dans l'autre sens, justement pour moi, cette tribune-là est exactement la même réaction que ces femmes qui me disaient, mais qui le font de manière beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus, c'est pas du tout, je les condamne pas de dire ça, parce que je comprends très bien leur idée de dire, mais je me serais pas fait avoir, etc. Mais c'est exactement ça que disent les filles de La Liberté d'Importuner, c'est-à-dire en gros, on est assez grande, on est assez souveraine, venez pas nous emmerder avec votre féminisme à deux balles, quoi.
Oui, et aussi, on est très contente qu'on nous dise dans la rue, qu'on nous harcèle dans la rue, qu'on nous dise qu'on est très belle.
Oui, mais elle marcherait en jouant sur le côté, c'est toujours nous qui décidons.
C'est ça.
Et à certains égards, c'est vrai, parce que quand on s'appelle Catherine Millet ou Catherine Deneuve, on a beau jeu d'être dans la souveraineté. Parce qu'évidemment, on l'est. On a tout. On a le pouvoir, on a l'argent, on a tous les codes sociaux, etc.
Mais elle ne l'a pas toujours été.
Non, mais... Elles n'ont plus la faiblesse qui leur permet d'avoir assez d'empathie pour ceux qui sont faibles. Et c'est un peu la même chose que je dirais que les femmes éclairées qui viennent, qui bizarrement ne prennent pas le parti de Laura parce qu'elles disent « moi je ne me serais pas fait avoir ». Mais peut-être que c'est vrai, mais c'est en partie parce que justement elles ont oublié ce que c'était que d'être faible. Et par ailleurs, elles le sont peut-être encore plus qu'elles ne le croient. Ça, c'est vrai.
C'est pas ce que raconte Hélène de Vinck dans Impunité, parce qu'elle, elle vient justement d'un milieu intellectuel, et à un moment donné, elle dit « Mais comment je suis tombée dans ce pied ?»
Alors voilà, mais je suis d'accord. C'est, moi, là aussi, je bémol à ce que je viens de dire, l'intelligence ne sauve pas.
Ben, c'est ça.
Oui, bien sûr. Et c'est ce que je pense pour Laura aussi, parce que Laura est intelligente. Ce que je voulais, c'était aussi en faire un personnage qui, par moments, peut avoir des saillies, ou une lucidité sur les événements, et même la lucidité sur la situation ne lui permet pas de s'en dépatouiller pour autant. Donc c'est vrai, mais c'est ce qui me fait penser devant ce type de réaction, de dire non,
c'est pas si simple.
Vous seriez peut-être fait avoir aussi, et quand bien même vous ne vous seriez pas fait avoir, c'est pas une raison pour accuser ceux qui se font avoir d'être plus faibles. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, si on utilise sa propre valeur héroïsante pour accuser les autres de ne pas être... On est exactement dans le truc de méritocratique à deux balles, c'est-à-dire, puisque moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir.
Ouais, c'est ça.
Bon, c'est la même chose, quoi. Ouais. Alors, rien de plus violent et de plus stupide que ce genre de phrase.
Et puis du coup, ils sont deux fois victimes. Ils sont à la fois leurs propres victimes et
absolument.
Leur bourreau en même temps, accusés d'être leur bourreau. Mmh.
Comment avez-vous fait le choix du titre de...
Ouais. Ben, j'avais un super titre, mais mon éditeur en a pas voulu, mais bon, après, moi, je l'avais appelé Ancien Régime. Enfin, super titre, quand je vous le dis, vous vous dites pas, ah ouais, c'était un super titre.
Non, mais réfléchis.
J'aimais beaucoup parce que ça voulait dire, parce que il est vrai que, pour le coup, ça revient aussi à la question du réalisme du livre... C'est-à-dire que c'est un livre d'époque quand même, c'est un livre qui s'inscrit dans une époque. Le contexte sociétal qui est celui justement de... Enfin, on ouvre un peu la boîte de Pandore de toutes ces histoires qui ont été si écrasées, étouffées pendant des générations et des générations. Donc, Ancien Régime, ça voulait dire le monde est en train de changer. Ce qui se passe là, la façon dont les mecs traitent les filles dans ces situations-là, ça relève d'un ancien régime. En fait, c'était plutôt une référence à la révolution féministe actuelle, ce qu'on appellerait la seconde révolution féministe après celle des années 70. Et celle qu'on appellera dans 20 ans, quand on aura du recul dessus, la seconde révolution féministe. Et donc, c'était une manière de dire ancien régime, parce qu'aussi tout le livre tisse une métaphore sur le monde médiéval, c'est-à-dire qu'au fond, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, la manière dont le maire se comporte avec la jeune fille est la même chose qu'un seigneur médiéval avec une villageoise sur laquelle il aurait ce qu'on appelait à l'époque un droit de cuissage, c'est-à-dire une manière de pouvoir la violer quand il veut, quoi. Donc, en jouant ces analogies-là, j'aimais bien mon titre d'Ancien Régime parce qu'il superposait les deux périodes et il permettait d'avoir une espèce de polysémie politique. Voilà. Mais c'était trop... comment dirais-je ? Ça reste un roman. Et pour un roman, il faut... Voilà. Je crois qu'il ne faut pas trop qu'un roman soit d'emblée et dès son titre militant. Volontariste, quoi. Donc il va absolument dire « Ah, regardez, je dénonce le monde !» Bon. Donc, j'en ai discuté avec mon éditrice, et évidemment, je savais qu'elle voudrait pas Ancien Régime, pour cette raison-là, trop militant, trop explicite, trop je prends un parti et pas l'autre. Donc on a choisi un titre, si on peut dire, plus ouvert, plus romanesque, plus doux. Et là, La fille qu'on appelle est un titre qui s'est imposé de lui-même parce qu'il y avait cette ironie de Laura sur elle-même disant, s'appelant elle-même Call Girl. On traduit jamais Call Girl en français. Vous connaissez cette expression Call Girl? Vous voyez ce que c'est une Call Girl? C'est une prostituée de luxe. Donc c'est un peu une prostituée pour typiquement des mecs comme le maire, par exemple. C'est-à-dire, c'est les prostituées du Hilton de Lille, de Strauss-Kahn, mais voilà. Bref. Donc voilà, Call Girl, c'est la fille qu'on appelle, mais on ne traduit jamais cette expression, donc ça donnait aussi un truc bizarre de traduire cette expression. Donc, moi je l'avais un peu en réserve dans mes titres, et mon éditrice, elle me l'a proposé, et on s'est dit, bon ben, c'est sûr que ça va être ça, un titre un peu énigmatique aussi, on ne sait pas exactement encore de quoi ça va parler, enfin voilà. C'est du roman, quoi. Merci pour vos questions. Hein. Merci beaucoup.
Merci à Tanguy Vielle pour la qualité de son écoute, les passionnantes réponses aux questions posées par les élèves, et merci aux élèves et à Madame Bois pour leurs questions et leur implication. C'était la troisième et la dernière partie de la rencontre avec Tanguy Vielle, l'auteur de La fille qu'on appelle, dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire, au lycée Estournel de Constant, à La Flèche.